Tout de suite, c'est l'invité de la matinale. Nathalie Arthaud, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes porte-parole de Lutte ouvrière, vous êtes candidate aux élections régionales en Île-de-France. Alors hier, Manuel Valls n'a pas exclu de proroger l'état d'urgence au-delà de 3 mois, au-delà du 26 février. Est-ce que vous approuvez cette idée ?
Absolument pas. Absolument pas. Je pense que depuis bien longtemps, les terroristes, ceux qui voudraient perpétrer ces actes barbares, ont eu le temps de se cacher, de faire disparaître les preuves. Et aujourd'hui, l'état d'urgence, eh bien, il sert surtout, effectivement, à interdire les rassemblements, les manifestations, comme on l'a vu sur les manifestations de la COP21. Mais comme ça a été aussi le cas pour les manifestations en faveur des migrants qui avaient été prévues le 22 novembre. Et honnêtement, ça me choque beaucoup parce que, vous voyez, ces manifestations favorable aux migrants, c'est justement dire notre solidarité avec ceux qui sont victimes, comme nous l'avons été à Paris, de ces terroristes. Donc c'est la moindre des choses, je crois.
Il y a quand même eu 2000 perquisitions. Selon vous, elles n'ont servi à rien dans la lutte contre le terrorisme ?
Les 2000 perquisitions, ce qui s'est passé dans les heures qui ont suivi, quand effectivement les arrestations surviennent de ceux qui ont perpétré ces actes, eh bien, évidemment que c'est positif, évidemment qu'il faut le faire. Mais je vous dis, cette prolongation, non, n'amènera plus rien. Et d'ailleurs, y compris les juges et les professionnels du renseignement l'expliquent. Le travail, c'est un travail de renseignement, de fourmi, et il faut distinguer ce qu'il y a de gesticulation pour rassurer, et puis ce qui est en réalité, ce qui pourrait être efficace.
Vous pensez qu'il y a une véritable atteinte à nos libertés ou qu'il faut accepter un peu de céder sur les libertés pour assurer justement cette sécurité ?
Je pense que oui, quand il y a l'interdiction de manifester, de dire son désaccord sur... par rapport à la COP21, on y reviendra, mais aussi sur cette politique va-t-en-guerre, sur cette politique sécuritaire qui est en train d'être mise en place et qui aggrave, je crois, la situation. Alors, en ce qui concerne la guerre, moi je crois que on peut en faire le bilan de cette guerre contre le terrorisme. Elle a commencé il y a maintenant 14 ans et on se rend compte que le nombre de foyers terroristes ne font que se multiplier et que plus on bombarde, on sème la désolation, le chaos, plus finalement on fabrique des djihadistes. Donc la réalité,
alors,
c'est
du coup, qu'est-ce qu'on fait ? On laisse faire.
Guerre,
on laisse faire en Libye, on laisse faire en Syrie, on laisse faire en Irak.
Il faut déjà arrêter d'aggraver la situation. Tous les experts l'expliquent. C'est aussi ces interventions de l'armée américaine, cette occupation en Irak qui a fait que les sunnites exclus du nouveau régime se sont regroupés avec une revanche à prendre. C'est le délitement de l'État libyen.
Sauf que si on n'avait rien fait en Afghanistan, il n'y aurait peut-être pas eu les attentats
en Afghanistan,
aux États-Unis sur le World Trade Center.
En Afghanistan, vous savez qu'aujourd'hui, les talibans sont de retour. Regardez l'efficacité de toutes ces interventions. À chaque fois, on nous explique qu'on y va pour défendre le droit des femmes, pour remettre en place la démocratie. Et la réalité, c'est qu'on ne fait que s'enfoncer dans toujours plus de barbarie. Donc nous disons stop. À partir du moment où ces interventions impérialistes, elles ont des arrière-pensées, vous savez, y compris quand on regarde la Grande Coalition, quand on regarde les alliés de la France, quand on voit que la France s'appuie sur la Turquie, qui joue un double jeu dans la région, et tout le monde le sait, tout le monde le dit, le dénonce, quand on voit que la France s'appuie sur le Qatar, sur l'Arabie Saoudite, dont on sait qu'ils soutiennent le fondamentalisme dans la région, on peut quand même se poser des questions. Et on voit y compris que maintenant, on est tous, ils sont tous à peu près d'accord pour dire qu'il va falloir s'appuyer sur Bachar al-Assad. Moi, je ne vois pas comment on peut lutter contre des monstres en s'appuyant
sauf
sur...
Il y a une population syrienne qui est obligée de fuir. Est-ce que nous ne devons pas l'aider aussi, cette population ?
Il faut commencer surtout par accueillir les réfugiés qui sont à nos portes et que l'on traite comme des parias. Et ça, c'est révoltant. C'est révoltant. Regardez ce qu'ils ont vécu, effectivement. Alors, c'est les bombes, cette terreur. Ils fuient. Ils risquent leur vie pour franchir la Méditerranée.
On va en accueillir 33 000 supplémentaires. Vous diriez qu'il faut en accueillir combien, vous ?
D'abord, vous savez, je ne sais même pas si ça va être la réalité des choses. Parce que quand on entend aujourd'hui Valls expliquer qu'il faut complètement arrêter tout cela, je ne suis même pas sûre qu'il réalise cet engagement qui, franchement, est dérisoire par rapport aux besoins. Rendez-vous compte qu'en Turquie, il y a 2 millions de réfugiés. qu'en Jordanie, il y a des camps de 1 million, 1 million et demi de réfugiés. Pour ces pays-là, pour la Grèce, pour la Jordanie, pour la Turquie, c'est un problème bien plus compliqué que pour des pays riches comme l'Allemagne et la France. En d'autres temps, la France, quand même, a su donner l'asile à des centaines de milliers de boat people vietnamiens, aux réfugiés de la guerre d'Espagne, y compris aux millions de pieds noirs.
Elle peut continuer à le faire dans la situation dans laquelle elle est aujourd'hui ?
C'était pas plus florissant. Vous savez, y compris quand les pieds noirs se sont installés en France dans la précipitation, il y avait une crise du logement. Les logements ont été construits, et y compris ils ont travaillé, ils ont apporté des richesses au pays. C'est ça la réalité. Donc cette politique par rapport aux migrants aujourd'hui est scandaleuse. Et scandaleuse, c'est une monstruosité, y compris de dire que finalement, parmi eux, pourraient se glisser des terroristes et peut-être que ce sont des assassins en puissance. Je trouve ça, c'est une ignominie de plus qu'on fait subir à des centaines de milliers d'enfants, de femmes et d'hommes.
Pour revenir à l'état d'urgence et aux manifestations interdites, il y en a eu une dimanche, une chaîne humaine autorisée, et puis il y a eu des débordements. Est-ce que vous condamnez ces casseurs qui ont abîmé le mémorial, notamment des victimes des attentats du 13 novembre ?
Moi, je crois surtout que dimanche soir, il y a eu une manipulation. Une manipulation parce que finalement Hollande, Cazeneuve, Valls se sont emparés de cette poignée d'excités qui ne représentaient pas justement les manifestations pour cacher l'essentiel. Et l'essentiel, c'est qu'il y avait eu une manifestation organisée, une manifestation en cortège avec...
Autorisée.
Non, je parle de la manifestation qui a marché. Place de la République, qui réunissait plusieurs centaines de personnes avec des banderoles où il y avait, y compris des collègues, par exemple, du SNES, de la FSU, des militants du NPA, Alternative Libertaire. Il y avait un cortège qui était rassemblé avec des gens connus, pacifistes. Et c'est ce cortège-là qui a été dispersé.
Donc vous condamnez quand même ces casseurs ont mis le bazar dans cette manifestation pacifique.
Je pense que cette poignée d'excités parasite les manifestations. Ça, c'est une chose. Mais quand il y a des centaines de manifestants pacifiques qui veulent protester, qui veulent dire leur désaccord par rapport à toute cette grand-messe médiatique de la COP21 où on nous explique qu'ils vont sauver le climat, alors qu'en réalité, ils ne vont rien faire, eh bien, on leur interdit. On les gaze, on les disperse, on les arrête. Et ça, c'est scandaleux. Voilà, c'est scandaleux que l'état d'urgence qui nous est vendu pour lutter contre les terroristes serve, au bout du compte, à faire taire les voix dissidentes. C'est ça que je dénonce.
Vous faites référence aux 26 militants écologistes qui sont assignés à résidence également ?
Mais oui, également. Écoutez, c'est quand même...
Bernard Cazeneuve, hier dans l'hémicycle, disait qu'ils étaient potentiellement dangereux, qu'ils pouvaient éventuellement être des casseurs.
Non mais vous voyez, là, c'est quand même complètement fou. On a mis en place cet état d'urgence pour lutter contre des terroristes, des gens qui étaient prêts à se faire exploser dans une foule et qui visaient à faire le plus de morts possible. Et on fait un amalgame avec des militants. Alors on nous dit que, écoutez, moi j'ai entendu, y compris la personne qui a été arrêtée et puis condamnée à 3 mois de prison ferme suite à ces événements. Il explique qu'il a lancé une canette de bière sur, 3 mois de prison ferme. Bah écoutez, non, je pense que c'est disproportionné.
Vous appelez donc à manifester le 12 décembre au lendemain de la COP21.
Alors j'appelle surtout aujourd'hui, il y a un rassemblement pour Air France et j'appelle surtout à cela.
Vous y serez ?
Oui, je vais m'y rendre.
C'est en soutien aux salariés qui doivent être condamnés pour avoir arraché la chemise du DRH d'Air France.
Encore une fois, là vraiment c'est le monde à l'envers. Voilà, je trouve vraiment que c'est le monde à l'envers parce que là, ces salariés ont essayé de se battre, se sont révoltés, oui, contre l'annonce de 3000 suppressions d'emplois dans une entreprise qui est prospère. On nous a menti encore là-dessus en nous expliquant qu'Air France était au bord du gouffre, risquait de mettre la clé sous la porte.
Est-ce que ça justifie quand même ces violences ?
Il y a eu ce coup de colère. Et je pense que les salariés, ils se battent comme ils peuvent. Ils se battent comme ils peuvent. Et ce qui est scandaleux, c'est qu'on laisse les licencieurs faire. C'est que l'État les soutient, que le gouvernement les soutient. Alors évidemment, les travailleurs, comptent-ils pour se battre, pour sauver leur emploi, leur salaire ?
Donc on arrache une chemise ?
Ils ont leur révolte, tout simplement. Ils ont leur révolte. Et cette révolte, elle est justifiée. Moi, j'espère et j'aimerais qu'effectivement, il y ait bien plus de réactions. Il faudrait que les réactions soient conscientes. soit organisée, vise effectivement à gagner. Et ça veut dire gagner des solidarités, ça veut dire être le plus nombreuse possible. Mais il faudrait qu'effectivement, à chaque fois qu'on voit ces grands groupes supprimer des emplois, et ça c'est vrai pour tous les grands groupes, où il y a le chantage à la compétitivité, eh bien il faudrait qu'on s'unisse pour dire non, ça suffit. Si on veut lutter contre ce chômage de masse, il faut commencer par arrêter toutes ces suppressions d'emplois.
On va parler du Front National qui monte dans les sondages. Il est donné gagnant en Nord-Pas-de-Calais, Picardie, en Provence-Alpes-Côte d'Azur et depuis hier soir dans le Grand Est. Hier, Manuel Valls a appelé à la mobilisation contre le FN. Est-ce que la gauche, dans son ensemble, doit se rassembler face à cette montée du Front National ?
Écoutez, d'abord, nous ne voulons pas être mélangés avec la gauche dont vous parlez parce que le Parti Socialiste, qui appartient à cette gauche, est celui qui est au pouvoir aujourd'hui et que nous ne cessons de combattre. Ça, c'est une première chose. Et par ailleurs, quand j'entends Valls sonner la mobilisation générale contre le Front National, honnêtement, ça me... Comment dire, ça me révolte parce qu'il y a une comédie dans tout ça, une comédie électorale. Regardez comment Marine Le Pen a été invitée et reçue à l'Élysée suite aux attentats pour que Hollande prenne des conseils auprès d'elle. Regardez comment le gouvernement a emprunté une partie des mesures sécuritaires qu'il a imposées là au programme du Front National. Alors qu'est-ce que ça veut dire ? Il faut lutter contre le Front National ou il faut reprendre une partie de son programme ? Quand j'entends le gouvernement nous
Daniel
expliquer...
Daniel Valls joue double jeu ?
Ah ben moi je crois qu'ils se confortent les uns les autres. Je crois que sur toute une série d'annonces, vous savez, y compris l'enterrement du droit de vote pour les étrangers aux élections locales, je crois qu'ils vont sur le terrain du Front National, qui vont sur cette démagogie là aussi, par électoralisme. Mais au bout du compte, ils renforcent le Front National. Alors moi je veux bien qu'aujourd'hui ils nous expliquent qu'il faut tout faire pour qu'il n'y ait pas le Front National qui arrive au pouvoir. Mais le Parti Socialiste fait le jeu, fait le lit du Front National.
Alors on va écouter le Parti Socialiste, on va écouter notamment Pierre de Saint-Ignon qui lui est candidat en Nord-Pas-de-Calais, Picardie. Écoutez.
Le Front National passe son temps à attiser les haines, passe son temps à diviser les gens, à monter les uns contre les autres. Oui, c'est un vote citoyen dimanche. Il faut ouvrir les yeux. Et c'est un vote de résistance parce que notre région ne trouverait aucun profit à l'arrivée de Mme Le Pen à la présidence de sa région. Elle n'a aucune réponse pour cette région.
Le Front National attise les haines. Le PS ne se reconnaît pas dans ce que vous dites.
C'est vrai, mais en même temps, regardez aussi comment ces mesures sécuritaires, et ben justement, elles cultivent le repli sur soi, le rejet de l'autre, la méfiance généralisée. Ça va dans le même sens au bout du compte, vous voyez. Et vous savez, cette région du Nord, elle a été dominée pendant des décennies par les socialistes. Pourquoi les électeurs du Parti Socialiste s'en détournent aujourd'hui ? C'est ça la vraie question.
C'est la faute du Parti Socialiste ?
C'est, je crois, le fait que le Parti Socialiste et que Hollande au pouvoir a abandonné ses quelques promesses électorales, a renié son propre programme, a déboussolé et a écœuré une partie de son électorat. Donc il y avait déjà cette politique-là, parce qu'effectivement, quand on laisse faire les licencieurs, quand on attaque, parce qu'écoutez, le gouvernement a quand même attaqué les conditions de vie des travailleurs, a augmenté les impôts, y compris des plus pauvres. Et vous savez, cette ignominie de plus sur, y compris, l'allocation adulte handicapé, ils se sont arrêtés juste avant les élections. Mais tout ça, ça compte. Tout ça, ça compte, évidemment. Donc il y a cette politique qui, effectivement, crée un terreau pour le Front National. Et en plus, on en a eu... Voilà, il ouvre un boulevard en reprenant une partie des thèses du Front National. Donc voilà la réalité.
Alors
aujourd'hui,
le Front National se défend aussi. Ce matin, on va écouter Florian Philippot.
Il y a une indécence... Et il y a même, si vous voulez, plus qu'une indécence, une inconscience du pouvoir. Moi, quand je vois Manuel Valls retomber dans la fange de la politique politicienne, reprendre sa croisade stupide, absurde pour tout le monde aujourd'hui, contre le Front National, alors que le Front National l'a démontré, il a été extrêmement lucide sur les dangers qui guettent la France et sur les solutions qu'il faut y apporter, eh bien, ces gens-là se déshonorent.
Face au FN, qu'est-ce qu'on fait ? Le Front Républicain, le désistement républicain, une fusion des listes ? Vous voyez ça comment, vous,
Non, mais nous, c'est sûrement pas de nous rassembler avec ceux qui fabriquent le Front National, parce que c'est ça la réalité aujourd'hui. Voilà, le Parti Socialiste fabrique le Front National, donc on va pas leur dire bravo, on vous soutient.
Donc vous êtes contre le Front Républicain.
Mais nous, Lutte ouvrière, nous sommes présents au premier tour. Et nous disons qu'il faut que les travailleurs, justement, renouent avec leur combat qui a toujours été le leur. C'est-à-dire se battre contre ceux qui ont le pouvoir, se battre contre ceux qui dominent les entreprises et qui font reculer les conditions
donc
de
vous
vie.
Êtes les... contre donc... le Front républicain.
Ah mais nous, on ne fait pas partie, évidemment, de ce jeu-là. Et vous comprenez, il y a trois configurations où le Front national menace. C'est à chaque fois contre la droite. Nous allons faire croire que la droite pourrait être un barrage, un rempart au Front national, alors qu'on voit que Estrosi reprend les thèses du Front national.
Et vous, vous dites donc que vous êtes opposé au Front national, mais vous avez voté comme le Front national. Vous avez, dit le MEDEF, le même programme économique que le Front national. Vous avez voté contre le PNR en Europe pour le trafic de passagers aériens. Vous avez voté contre la loi renseignement ici à l'Assemblée. Alors, non, quelle différence
nous, finalement ? Nous ne sommes pas à l'Assemblée nationale, donc on n'a pas pu voter contre. Mais non,
les communistes, ici, ont voté contre.
Lutte ouvrière, donc on n'est pas non plus le Parti communiste. Mais de toute façon, faire l'amalgame, le Front national avec le programme de l'extrême, c'est ridicule. Y compris, c'est de ne pas voir que Marine Le Pen, c'est une girouette. Que pendant tout un temps, elle a cherché les voix, effectivement, des classes populaires. Donc elle a fait une démagogie sociale. Mais aujourd'hui, c'est absolument plus le cas. Elle parle plus de l'augmentation du SMIC. Elle parle plus de la retraite à 60 ans. Non, elle s'adresse au petit patronat. Donc elle explique qu'arrivée aux régions, eh ben, elle fera comme les autres. C'est-à-dire qu'elle fera des subventions à fond perdu au patronat. C'est un parti bourgeois, le Front national, comme les autres. Et s'il arrive au gouvernement, s'il se rapproche du pouvoir, eh bien il fera la politique pour le patronat. Et c'est ce que nous voulons dire aux travailleurs. Et notre campagne, c'est ça. C'est-à-dire, ne vous trompez pas de camp. Le Front national, c'est l'ennemi. Voilà, c'est un poison pour les travailleurs. Le camp des travailleurs, c'est autre chose. C'est la lutte contre le chômage, contre les bas salaires, contre le recul du pouvoir d'achat. Et c'est les listes Lutte ouvrière.
Merci Nathalie Arthaud d'avoir été notre invitée ce matin. Porte-parole de Lutte ouvrière et candidate au régional en Île-de-France.